Je vous invite ce matin à suivre avec moi la lecture d'un des trois textes qui nous est proposé par la Ligue pour la lecture de la Bible. Il se trouve dans une petite épître, l'épître à Tite, une des trois épîtres pastorales, dit-on. Au chapitre 2, voici ce que nous lisons. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde pour que nous vivions dans le temps présent avec réserve, justice et piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, un peuple qui lui appartienne, qui soit plein d'ardeur pour les belles œuvres. C'est ainsi, dit Paul à Tite, que tu dois parler, exhorter et reprendre avec pleine autorité et que personne ne te méprise. Et puis un peu plus loin, dans le chapitre 3, à partir du verset 3, voici ce que nous lisons. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de désirs et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque se sont manifestés la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint. Cet Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons maintenant faire silence en nos cœurs. Nous voulons recevoir tout à nouveau ta parole ce matin et que ton esprit de sainteté nous rende disponibles à ton écoute. Seigneur, ta parole est la vérité. Qu'elle sanctifie nos cœurs et nos esprits maintenant. Amen. Alors, quand on lit un texte comme ça, aussi dense, pas toujours facile de s'y retrouver. Et surtout quand on est en début d'année. Alors, on n'est pas le premier dimanche de l'année 2016, mais le deuxième. Et nous avons fêté, normalement, cette semaine, autour d'une belle galette des rois bien croquante, l'Épiphanie. Cette fête qui commémore, qui se souvient de la manifestation de Jésus au mage. L'Épiphanie, c'est un mot qui signifie étymologiquement la manifestation d'une réalité qui a été cachée. Alors avec ces deux éléments en tête, à la fois la fête de l'Épiphanie et puis le fait que nous soyons début d'année, nous en avons là, il me semble, deux clés, deux éléments intéressants pour lire notre texte. En effet, je ne sais pas vous, mais en début d'année, généralement, on se pose trois catégories de questions, peut-être plus, hein, vous me direz. La première catégorie, c'est de quoi sera faite cette année 2016 ? Qu'allons-nous vivre ? Quel projet allons-nous entreprendre ? Quel événement ou quel élément dans notre vie allons-nous vivre ? Ou subir. La deuxième catégorie de questions qu'on peut se poser, quelles sont les bonnes résolutions que je vais prendre cette année ? Quels sont ces vœux pieux qui n'engagent que ceux et celles qui y croient ? Ou au contraire, quels sont les vœux, les souhaits, les résolutions que j'ai envie de prendre qui sont assez réalistes, même réalisables, et qui me tiennent à cœur depuis des années ? quelles sont les bonnes résolutions que je vais prendre. Et la troisième catégorie, c'est quels sont les vœux que je peux formuler à mes amis, à ma famille, à mes voisins. Qu'est-ce que je peux formuler ? Qu'est-ce que je peux, de quoi je peux accompagner mon bonne année ? Est-ce que c'est la bonne santé, la prospérité, la réussite ? Trois catégories de questions que notre texte vient, me semble-t-il, éclairer. À la fois en nous invitant à prendre de la hauteur sur les temps que nous vivons, et en même temps de la profondeur sur les résolutions à prendre, sur les vœux que nous pouvons souhaiter. Dans cette lettre de l'apôtre Paul à Tite, une lettre qu'il adresse à ce responsable d'église qu'il a laissé en Crète pour organiser l'église, il y adresse à la fois des recommandations très pratiques pour chaque catégorie de personnes, et en même temps on y trouve des perles, des joyaux de doctrine, comme nous venons de lire. Et ces deux passages vont nourrir, me semble-t-il, notre méditation ce matin, et peut-être même toute notre année. Il nous invite donc à prendre de la hauteur sur les temps que nous vivons, et de la profondeur sur nos bonnes résolutions et nos bons vœux. Je vous invite d'abord à prendre un petit peu de hauteur, de légèreté sur les temps que nous vivons. Parce qu'en réalité, Paul, à travers cette lettre, nous place entre deux chaises, entre deux instants, entre deux épiphanies, deux moments où Dieu a manifesté une réalité qui était cachée. La première, Alice, si tu veux bien mettre là. Non, je t'en prie. La première épiphanie, c'est celle qui s'est passée il y a 2000 ans. C'est le salut en Jésus-Christ. Cette première épiphanie porte un nom, Jésus-Christ. Cette première manifestation incroyable de la lumière divine. Manifestation qui est le fruit de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ce mot qu'on dit et redit sans cesse, mais qui est si délicieux dans ce qu'il signifie. Cette disposition favorable, cette générosité, cette bienveillance d'un Dieu qui regarde l'humanité. Cette première manifestation, ce premier Noël, cette première Pâque à la croix est fruit uniquement de la grâce divine. Et l'apôtre Paul le répète de différentes façons. D'abord de façon positive, en parlant de la grâce de Dieu, de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde. Mais également de façon négative, en disant « ce n'est pas en raison des œuvres que vous avez accomplies ». Et même les œuvres accomplies dans la justice, même celles qui pourraient plaire potentiellement à Dieu, ce n'est pas en cette raison-là, pour cette raison-là, que vous avez été sauvés, mais par la grâce de Dieu. Pour qu'au fond, l'être humain place les œuvres, ce qu'il fait, à la juste place. Dans cette première épiphanie, tout est projet divin. Tout est fruit de sa grâce, de son amour, de sa bonté. Une question se pose alors, mais quelle est donc la visée de cette épiphanie ? Pourquoi Jésus est-il venu ? L'apôtre Paul nous dit assez simplement « pour nous sauver ». Pour nous sauver. Nous qui étions autrefois, je répète le chapitre 3, verset 3, qui est assez terrible à entendre, nous qui étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs, nous vivions dans la malfaisance, dans l'envie, nous étions odieux, nous détestions les uns les autres. Alors rassurez-vous, on n'a pas cumulé chacun individuellement de ces choses. Hein. Vous n'avez pas à dire à votre voisin « toi, je suis sûr que tu étais stupide avant » ou « toi, je suis sûr que tu étais rebelle ». Mais c'est une réalité qui décrit au fond le cœur humain, loin de Dieu, loin de celui qui peut le sauver. Alors, cette première épiphanie, c'est la manifestation de l'abaissement, du don de soi-même, de l'humiliation d'un Dieu qui vient visiter l'humanité. Et pour nous aider un tout petit peu à comprendre ce qui s'est passé à la croix, Paul va utiliser deux images. Une image de type un peu commercial, le rachat, la rançon payée, et une autre, plus juridique, la justification. Il nous aide par ces deux images à comprendre ce qui s'est réalisé, ce qui s'est passé à la croix. Parce que la croix n'a pas une visée romantique, ce n'est pas non plus un échec d'un homme qui se croyait investi d'une mission particulière, mais la croix est délivrance, elle est rachat. Le rachat, de tout mal, nous dit l'apôtre Paul, tout mal. Car en réalité, lorsque nous commettons un péché, lorsque nous faisons mal à quelqu'un, nous contractons en réalité une dette. Nous devons quelque chose à Dieu. Nous contractons une dette à l'égard de sa loi, de sa volonté. Et force est de constater que cette dette a coûté cher, parce qu'il a fallu la payer, cette rançon. Il a fallu la payer pour que Dieu, qui aime tant cette humanité, puisse revivre, puisse vivre en communion avec l'être humain. Alors il l'a payé lui-même, cette dette. Il a remis lui-même cette dette à l'humanité. Une remise de dette qui nous permet au fond d'être pardonné, d'être libéré de ce qui nous emprisonne, de cette tendance naturelle, entre guillemets, à faire du mal. L'esclavage, nous parle Paul dans Romains 6. Cette réalité où on a du mal à faire le bien que l'on sait qu'il faudrait faire et on a facilité à faire le mal qu'il ne faudrait pas faire. Le Christ est venu payer cette rançon pour ouvrir la porte, au pardon. Autre image, plus juridique, celle de la justification. Un grand mot. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes déclarés justes par grâce. Image juridique, mais image intéressante, qui montre bien qu'il y avait un acte d'accusation contre chacune et chacun d'entre nous. Terrible à entendre. Un Dieu qui est juste, qui voit l'œuvre de l'humanité et qui, s'il est juste, doit condamner forcément le mal. Mais comment faire ? Comment faire pour garder cette justice ? Pour ne pas dire que ce Dieu que nous croyons est un Dieu faiblard, un Dieu qui laisse le mal se propager ? Comment faire pour être juste et être amour en même temps ? Comment faire ? Eh bien, le Christ a porté sur lui le poids de notre condamnation. Il a pris cet acte d'accusation à l'encontre de chacune et de chacun et il l'a déchiré en disant « J'ai payé pour toi » à la croix. Vous connaissez peut-être cette histoire du Père juge qui illustre avec les limites d'une image, mais qui illustre un petit peu cette idée de justification. C'est l'histoire d'un père qui est juge, magistrat, et qui voit arriver au tribunal, devant la barre, des accusés ou des mises en examen, son fils, qui a fait une énorme bêtise. Que faire ? Il est magistrat, l'avocat général, le procureur, les avocats sont là, en train de regarder ce qu'il va faire. S'il déclare son fils non coupable, il n'est plus juste. Et quelle confiance peut-on avoir en un magistrat qui condamne, qui ne condamne pas ce qui est condamnable ? Et puis en même temps, il est amour, il aime son fils. C'est le fruit de ses entrailles. Comment faire ? Alors le magistrat tape et condamne son fils à une forte amende. Et une fois qu'il a condamné son fils, il enlève sa robe de magistrat et descend à côté de la barre des accusés, prend la place de son fils et fait le chèque à sa place pour payer l'amende. Illustration qui est discutable, qui n'est pas parfaite, mais illustration qui nous permet de comprendre, me semble-t-il, toute proportion gardée, ce que Dieu a fait pour chacune et chacun d'entre nous. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, nous dit Paul. Oui, le Christ a réglé cet acte d'accusation, ce moment fatidique sur la croix, mais il a poursuivi son œuvre par l'Esprit Saint, qu'il vient faire habiter en chacune et chacun d'entre nous. Cet Esprit Saint qui vient nous purifier, nous renouveler, qui vient enlever toutes les crasses qui sont au fond de notre cœur. Toutes ces choses que le Seigneur est en train de transformer, de purifier à l'intérieur de nos cœurs. Est-ce que vous avez remarqué une chose dans cette description de la première épiphanie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Je vous laisse la parole un instant si vous voulez. Dans ce plan qui est décliné. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la Trinité. Dans cette première épiphanie, c'est toute la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Dieu, Père, Dieu, Fils, Dieu, Saint-Esprit a fait tout pour que nous soyons rachetés et justifiés. Je ne sais pas vous, mais j'ai peine à imaginer ça. Peine à appréhender ça. Et si on arrive à juste voir à la lucarne de ce que ça signifie, quel sujet de joie incroyable de comprendre que la Trinité entière s'est mise en marche pour nous sauver, pour nous justifier, pour nous purifier. Voilà donc la première épiphanie. La seconde, qui est à venir, celle que Paul évoque au verset 13 du chapitre 2, celle dont il parle comme une bienheureuse espérance, celle dont il caractérise la révélation de la gloire de notre grand Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Cette manifestation grandiose du moment où le Christ reviendra, cet instant incroyable qui est décrit de façon grandiose, miraculeuse, avec difficulté à prononcer ce moment fort tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 notamment. Et nous sommes là entre les deux, cette deux réalités. Cette seconde épiphanie que l'Église attend depuis des siècles et des siècles. Cette seconde épiphanie qui est œuvre de la Trinité tout entière. Nous ne savons pas quand aura lieu cette seconde venue du Christ. Mais ce que nous savons, c'est que c'est en raison de sa seule grâce que viendra ce moment-là. Alors voilà, l'apôtre Paul nous place entre deux chaises. Il nous place entre deux moments forts de l'histoire de l'humanité, du plan du salut que la Trinité a mis en œuvre. La première venue de Jésus et la seconde. Alors que faire maintenant? Qu'est-ce que tu nous proposes, Paul? Est-ce que la tentation n'est pas forte de regarder en arrière ou plutôt au contraire de regarder en avant? Qu'est-ce que tu nous proposes? Et je crois que Paul nous invite, en attendant, à vivre ces instants, cette tension entre le déjà et le pas encore, à le vivre pleinement à l'école de la grâce. Car il est vrai que nous sommes tiraillés, vraisemblablement, entre ce passé et ce futur. Mais il me semble qu'on peut trouver des pistes de réflexion et des éléments intéressants pour ceux que nous avons à faire, en attendant, par la réponse à cette question. Pourquoi Dieu, pourquoi la Trinité a mis en œuvre tout ce plan de salut pour nous sauver chacune et chacun? Pourquoi a-t-il fait cela? Alors bien sûr, pour nous sauver, nous l'avons déjà dit. Mais Paul va un peu plus loin en précisant que Dieu avait en tête de faire de nous un peuple. Un peuple qui lui appartiennent. Un peuple, mais pas n'importe quel peuple. Un peuple qui lui appartient en propre, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peuple plein d'ardeur. un peuple zélé, un peuple passionné. Pourquoi ? Passionné pour son précaré, pour son avenir, pour sa réussite, pour sa santé, pour son physique de rêve ? Non, un peuple passionné pour les belles œuvres, nous dit l'apôtre Paul. Pour toutes ces choses qui plaisent à Dieu, et dont on trouve quelques exemples dans l'épître de Tite. Les belles œuvres, être sage, se donner soi-même, chercher le bien de l'autre, l'amour, le service, être sage, éviter les abus, les excès en tout genre, enseigner le bien, aimer, servir, et j'en passe. Ce sont des belles œuvres, toutes ces œuvres qui sont le reflet de ce qui plaît à Dieu. Alors il ne s'agit pas en fait d'agir ou de faire comme on aurait un code, un mode d'emploi du bon chrétien, mais il s'agit d'une orientation de vie qui résulte d'un cœur qui mesure combien il est redevable, combien il est objet de l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que tout ce que Paul vient d'évoquer, toute cette réalité presque théorique, toute cette description théologique, tout cela, tout ce qui décrivait l'amour, la grâce de Dieu, vise à nous inciter à faire des belles œuvres. Alors une question se pose à nous ce matin. Je vous la pose et je me la pose à moi-même. Chers amis, est-ce que nous sommes passionnés par de belles œuvres ? Est-ce que nous sommes passionnés pour faire le bien ? Est-ce que nous sommes prêts à mettre toute notre ardeur pour faire preuve d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi ? Sommes-nous prêts à mettre notre passion dans ces choses-là ? On peut dire oui avec les lèvres, mais parfois, oui, comme les résolutions, n'est-ce pas ? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'arrête pas à notre salut et à sa seconde venue, puisqu'il nous invite à accueillir la grâce et à venir nous inscrire à l'école de la grâce. Parce qu'il nous dit que c'est la grâce de Dieu qui nous éduque, qui nous apprend à vivre cet entre-deux, cet entre-deux épiphanie. Alors une matière que je n'ai pas aimée tellement pendant ma scolarité, les mathématiques, mais dans cette école de la grâce, on fait des mathématiques et même des soustractions. On soustrait d'un côté ce que Dieu a fait, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il fera pour chacune et chacun d'entre nous. Alors je ne sais plus comment on appelle bref, on soustrait ça. Moins ce que nous étions. Et je vais vous le relire. Hein. Chapitre 3, verset 3. Donc vous avez en tête hein, toute la Trinité qui, par amour, miséricorde, grâce, se met en œuvre pour chacune et chacun d'entre nous. Et à cela, on soustrait ce que nous étions. Peut-être ce qu'était votre voisin. Stupide, rebelle, égaré, esclave de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Nous étions odieux. Nous nous détestions les uns les autres. Si vous faites la soustraction entre ces deux choses, la grâce moins notre pauvre réalité, le résultat que nous arrivons nous pousse à la reconnaissance, à l'enthousiasme, à bien agir, mais non pas parce qu'il nous le faut, mais parce qu'on est reconnaissant et on mesure que le résultat de cette soustraction est grandiose. Dieu est venu nous sauver gratuitement. Dieu vient nous inviter à vivre et à mesurer cette grâce au quotidien. Et ce n'est pas chose facile que d'appréhender ça. Le second point dans cette école, c'est que nous avons un maître très proche de nous, un enseignant ou une enseignante très proche, très compréhensive. C'est Dieu lui-même qui est présent en chacun de nous par son Esprit Saint. Il nous conduit, nous accompagne, nous édifie. Le troisième point dans cette école, c'est qu'il nous est donné des moyens pour progresser. Et toujours avec la grâce de ce maître, de ce professeur particulier qui est là, en nous. Premier moyen, c'est la lecture. Lecture, bien sûr, de la Bible, de sa parole, qui nous permet de façonner notre action, nos pensées. Second moyen, c'est l'apprentissage et la restitution. Vous savez, on apprend pour réciter. On apprend une belle poésie pour pouvoir la réciter devant tous les autres. Apprendre, vivre de ce que nous apprenons, de notre méditation, de nos expériences et même de nos épreuves. Apprendre de cela et être capable, à partir de ça, de partager ce que nous vivons. Troisième point, troisième moyen de progresser dans cette école, c'est l'oral. Il faut s'exprimer, n'est-ce pas, à l'oral. Quand j'étais enseignant, je m'étais souvent « pourrait s'améliorer dans la participation orale ». Et ici, l'oral est un élément important, un élément qui nous permet de progresser. Et cet oral, c'est la prière. Ces rencontres avec Dieu pour recevoir de lui sa volonté, ses pensées, son amour, et pour pouvoir aussi s'exprimer. Il y a un oral qu'on reçoit et un oral que l'on donne. Autre façon de progresser, sur laquelle je passerai assez rapidement, c'est le sport. Et oui, Paul nous parle de la discipline du corps et de l'hygiène des pensées. Alors, ce n'est pas du sport proprement dit, mais c'est l'idée, au fond, de rentrer dans une démarche de maîtrise, de réflexion sur ce que l'on fait et ce que l'on vit. Et puis enfin, dernier moyen de progresser, c'est la participation en classe. Autrement dit, la participation à la vie de la communauté. Voilà donc quelques moyens de progresser. Lecture, apprentissage, oral, un peu de sport, participation. Et puis n'oublions pas que nous avons un accompagnement personnalisé par cet enseignant qui est auprès de nous, qui nous laisse la chance de rebondir lorsque nous avons chuté, qui prend même nos épreuves et nos échecs pour nous apprendre des choses. Et enfin, nous avons un objectif clair et déterminé, apprendre à renoncer au mal et à cultiver une piété riche en œuvre bonne, authentique. C'est tout un programme que cette école, tout un programme. Alors, lorsqu'on a vu tout ça, lorsque l'on a médité sur tout ça, si on reprend nos trois questions du départ, la première, c'était de quoi sera fait 2016 ? Qu'est-ce que l'on va vivre ? 2015 a été une année assez terrible à plusieurs égards. Et 2016 ne semble pas s'ouvrir sur des meilleurs augures, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2016? Dieu seul le sait. Mais ce que nous savons, c'est que nous avons à vivre dans ce temps présent, conscients d'être dans cette attente de la seconde épiphanie, conscients de ce que nous savons, de ce que la Trinité entière a fait pour nous, de cette grâce, de cette miséricorde, de cette bonté, de cet amour que Dieu a décliné dans le temps pour chacune et chacun d'entre nous. Souvenez-vous, chers amis, gardez ça en tête, que c'est toute la Trinité qui s'est mise en marche pour chacune, pour chacun d'entre nous, pour nous rassembler en Église. La Trinité entière nous promet la fin d'un monde de souffrance et d'un monde de mort. Mais en attendant, nous sommes appelés à vivre le temps présent avec ces deux épiphanies en tête. La confiance que le Seigneur a tout accompli et l'espérance qu'il revient bientôt. pour ce qui est des résolutions, pourquoi ne pas être passionné, chers amis, cette année ? Pas passionné par une équipe de foot ou je ne sais quel chanteur ou homme politique qui prépare ses campagnes pour la présidentielle, mais passionné pour les belles œuvres, en étant conscience que nous avons tant reçu, en mesurant petit à petit cette grâce. Pourquoi ne pas servir ? Pourquoi ne pas agir pour le bien ? Pourquoi ne pas agir pour faire plaisir à Dieu ? Au fond, pourquoi ne pas s'inscrire à cette école de la grâce et nous laisser éduquer, édifier, discipliner par la grâce de Dieu ? Et enfin, vous savez, ces vœux, bonne année et bonne santé, n'est-ce pas ? Ça, c'est le réflexe. Pour ce qui est d'accompagner ces vœux de bonne année, est-ce que vous ne pourrez pas l'accompagner, bonne année, d'une bonne rencontre ? Souhaitez à ce que nous chérissons, à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, de rencontrer Jésus, celui qui nous a sauvés. Et quand j'ai écrit ce passage, ma pensée a été à Eric. En 2015, que pouvions-nous lui citer ? Bonne année, bonne santé, Eric ? Non. La bonne nouvelle pour Eric, c'est qu'il a vécu une bonne année dans cette belle rencontre qu'il a faite avec le Christ, avec celui qui l'a sauvé. Oui, nous reverrons Eric lors de cette seconde épiphanie. Alors, chers amis, nous ne savons pas quand aura lieu cette seconde épiphanie, ce moment où Jésus reviendra en gloire. Peut-être il y a du temps, peut-être pas. Bonne année, bonne rencontre, une invitation à être témoin de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Car nous ne savons ni le jour, ni l'heure de ce moment où nous aurons la joie et le privilège de le rencontrer. Ce Dieu qui nous aime tant, ce Dieu plein de grâce, ce Dieu plein de miséricorde, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui vous aime chacune et chacun. Que Dieu de toute grâce, chers amis, vous bénisse et vous garde pour cette année 2016. Amen.